VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 24 mai 2016. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Jean-Roger Bion. Tout d'abord, les titres.
Ouverture d'enquête au Libéria et en Guinée sur des allégations de corruption contre des membres ou proches du pouvoir.
Au Kenya, la police a dispersé Manu Militari hier à Nairobi, de nouvelles manifestations de l'opposition.
Fin aujourd'hui à Arusha, en Tanzanie, des consultations sur la crise au Burundi débutée samedi.
Quelques 2000 migrants secourus hier lors d'opérations de sauvetage au large de la Libye.
Washington exhorte Moscou à demander à Damas de cesser de bombarder l'opposition en Syrie.
Au Brésil, un ministre clé du gouvernement intérimaire se met en réserve, citation, après sa mise en cause dans le scandale de corruption Petrobras. Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports, pour l'instant, le journal.
Le Libéria et la Guinée ont ouvert des enquêtes. L'ONG britannique Global Witness accuse de corruption des membres proches du pouvoir dans l'attribution de contrats à la compagnie minière britannique Sable Mining. Le point avec Idriss Fall.
Le rapport de Global Witness, intitulé « Les imposteurs », détaille sur 44 pages les opérations de Sable Mining pour obtenir des permis. En Guinée, l'ONG évoque des millions de dollars pour financer la campagne d'Alpha Condé en 2010 et qui aurait été versé à son fils Alpha Mohamed Condé et à l'un de ses proches, Aboubakar Sampil. En réaction, le ministre des Mines, Abdoulaye Magasouba, a demandé l'examen de tous les permis miniers de Sable Mining Africa Limited. Au Libéria voisin, l'ONG affirme que près de 960 000 dollars ont été versés entre 2010 et 2012. Vani Chairman, actuel président du parti au pouvoir, Alex Tyler, ancien président de l'Assemblée nationale, Maurice Taïtouma, un ex-ministre des Finances devenu sénateur, sont cités, tout comme Fomba Sirleaf, beau-fils de la présidente Ellen Johnson Sirleaf et chef des services de renseignement. Pour y voir clair, le Parlement libérien a décidé le 20 mai à l'unanimité la création d'une commission spéciale indépendante pour mener l'enquête sur cette affaire.
Au Kenya, la police anti-émeute a dispersé hier de manière musclée de nouvelles manifestations de l'opposition qui réclament la dissolution de la commission électorale. Nani Talani.
Les médias locaux ont rapporté qu'au moins une personne a été tuée à Kisumu, mais cette information n'est pas confirmée par une source indépendante. Il y a eu aussi des affrontements à Mombasa et à Kakamega, dans l'ouest du pays. Les manifestations à Nairobi avaient été interdites et une force anti-émeute a bouclé le siège de la commission électorale. Après de violents affrontements la semaine passée, la police a tiré du gaz lacrymogène et utilisé des canons à eau pour disperser des groupes de manifestants qui ont jeté des pierres sur les policiers. Tous les lundis, depuis le 25 avril, l'opposition derrière Raila Odinga organise des manifestations pour réclamer la dissolution de la commission électorale qui avait organisé la présidentielle de 2013 remportée par Uhuru Kenyatta. Monsieur Odinga estime que cette commission n'est pas en mesure de garantir l'équité de la prochaine présidentielle prévue le 8 août 2017.
Quelques 2000 migrants ont été secourus lundi lors d'une quinzaine d'opérations de sauvetage au large de la Libye, ont indiqué des gardes-côtes italiens qui coordonnent les secours dans cette partie de la Méditerranée.
A signalé que les chefs de la diplomatie de l'Union européenne ont donné leur feu vert lundi à l'élargissement du mandat de la mission navale de lutte contre les passeurs de migrants au large de la Libye, Sofia, pour y inclure la formation des gardes-côtes libyens, a annoncé la diplomatie européenne à l'issue d'une réunion des 28 ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Discours du président Barack Obama aujourd'hui à Hanoï, discours axé sur l'amélioration des relations entre les États-Unis et le Vietnam et la nécessité d'un dialogue constructif entre les deux pays en cas de désaccord, y compris dans le domaine des droits de l'homme. Selon la Maison-Blanche, M. Obama rencontre aujourd'hui des membres de la société civile ainsi que de jeunes entrepreneurs pour les organisations de défense des droits humains. Le président a semblé ne pas trop insister sur la question dans ses efforts pour établir des relations plus chaleureuses avec le Vietnam.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a exhorté hier son homologue russe Sergueï Lavrov à faire pression sur le régime syrien allié de Moscou pour qu'il cesse de bombarder l'opposition et des civils innocents à Alep et dans les environs de Damas, au risque de faire voler en éclats une trêve extrêmement fragile.
Par ailleurs, une série d'attentats en Syrie a fait au moins 148 morts hier dans des attaques revendiquées par le groupe djihadiste État islamique et qui ont touché Tatous et Jablé, des villes jusqu'ici relativement épargnées par la guerre.
Un écologiste à la tête de l'Autriche, Alexander Van der Bellen, a remporté hier l'élection présidentielle face au candidat d'extrême droite Norbert Hofer à l'issue d'un second tour très serré. Les précisions de John Linden.
C'est une victoire à l'arraché. Après le décompte des votes par correspondance hier, M. Van der Bellen, un ancien professeur d'université âgé de 72 ans, a remporté 50,3% des suffrages contre 49,7% pour Norbert Hofer. Le candidat de l'extrême droite a admis sa défaite. M. Van der Bellen devient ainsi le premier écologiste à être élu à la tête de l'État autrichien et le seul en Europe. Européen convaincu, ancien patron des Verts, il n'a eu d'autre choix que de faire campagne au centre. Il s'est présenté sous une étiquette d'indépendant. La question migratoire a été au centre de la campagne. Le pays a accueilli 90 demandeurs d'asile, soit 1% de sa population. Norbert Hofer misait sur cette crise migratoire, l'euroscepticisme et le rejet de la classe politique traditionnelle. Un électeur sur deux a voté en sa faveur. D'ailleurs, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, craignait le pire et pariait à exprimer son soulagement suite à la défaite de l'extrême droite autrichienne.
Ici, aux États-Unis, la candidate démocrate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, quasi assurée d'être investie par son parti, a refusé lundi de participer à un ultime débat avec son rival Bernie Sanders proposé par la chaîne Fox News. Nous pensons que le temps de Hillary Clinton est mieux employé à faire campagne et à rencontrer directement les électeurs en Californie pour préparer la campagne de l'élection générale du 8 novembre, a expliqué sa directrice de communication, Jennifer Palmieri.
Toujours aux États-Unis, un policier de Baltimore, dans l'État du Maryland, a été acquitté dans l'affaire Freddie Gray. Ce jeune noir, mort il y a plus d'un an, il avait subi une blessure fatale à la suite de son interpellation, Maëlys Hegel.
Édouard Néraud, l'un des six policiers jugés séparément, a été reconnu non coupable des quatre chefs d'accusation qui pesaient sur lui. Dans la foulée de l'annonce, Stéphanie Rawlings-Blake, la maire de Baltimore, a déclaré que le policier fera l'objet d'une enquête administrative de la police. Elle a de nouveau demandé aux citoyens d'être patients et a prévenu qu'en cas de trouble, sa ville est prête à répondre. Après son interpellation du 12 avril 2015, Freddie Gray avait été menotté et placé dans un fourgon de police. Le jeune homme a subi une fracture des vertèbres cervicales pendant son transport et a succombé à ses blessures une semaine plus tard. Jusqu'ici, aucun des policiers poursuivis n'a été condamné. La mort de Freddie Gray avait déclenché des émeutes, des pillages et actes de vandalisme à Baltimore dans un contexte de bavures policières répétées contre des Noirs aux États-Unis.
Au Brésil, un ministre clé du gouvernement intérimaire brésilien de Michel Temer, celui de la planification Romero Jucca, a annoncé qu'il se mettait en réserve à partir d'aujourd'hui après sa mise en cause dans le scandale de corruption Petrobras. M. Jucca est accusé d'avoir œuvré à la destitution de la présidente Dilma Rousseff dans l'objectif de stopper l'enquête sur le scandale de corruption Petrobras selon un enregistrement compromettant publié lundi par le quotidien Folha de São Paulo.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Et tout de suite, la minute écho avec Eric Manirakiza.
Le président du Parlement égyptien a menacé de sanctions disciplinaires tout député qui critiquerait la politique monétaire des autorités dans les médias au moment où le Parlement est accusé d'apporter un soutien sans faille au régime. Le président Sisi et la Banque centrale ont été critiqués récemment pour leur politique monétaire, au moment où le pays souffre d'une pénurie de dollars qui a entraîné une hausse des prix ou une pénurie de certains produits, notamment des médicaments. À la mi-mars, la Banque centrale égyptienne avait dévalué de 14,3% la livre, promettant une politique de change plus souple. Les autorités sud-africaines ont annoncé hier lundi avoir interpellé 96 marins qui pêchaient illégalement à bord de trois bateaux chinois ce week-end dans l'océan Indien, au large de Port Elizabeth, dans le sud du pays. À leur bord, 600 tonnes de calamars ont été retrouvées. Une étude de l'association Greenpeace menée l'an dernier montrait que le nombre de bateaux chinois opérant dans les eaux africaines a bondi de 13 navires en 1995, en 1985 à 462 en 2013. Le nouveau tunnel ferroviaire du Gotthard, Suisse, le plus long du monde avec ses 57 km, est une aubaine pour l'Europe, selon la commissaire européenne au transport, Violetta Bulc. Ce nouveau tunnel permettra de relier Zurich à Milan en 2h40, soit une heure de moins qu'avant sa mise en service.
Les sports à présent avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Luis Fernandez n'est plus le sélectionneur de la Guinée.
Le sélectionneur du Sili National depuis avril 2015, Luis Fernandez, a annoncé hier qu'il quittait son poste. « Je mets un terme à mon poste de sélectionneur de la Guinée, on se quitte en bons amis », a-t-il déclaré sur les ondes de la radio dont il est consultant. « Il y a eu pas mal de bouleversements, de changements à la fédération depuis mon arrivée. Mon staff va rester en place pour terminer ça et jouer le dernier match. » On vous rappelle que la Guinée a encore une rencontre à jouer dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2017. Ce sera contre le Swaziland.
La FIFA renvoie son secrétaire général par intérim pour des manquements financiers.
L'Allemand Markus Kattner a été renvoyé hier après qu'une enquête interne ait mis à jour des manquements dans ses responsabilités financières en lien avec ses fonctions. C'est ce qu'a annoncé la FIFA hier dans un communiqué. Nous parlons là de sommes importantes, des millions de dollars, a assuré une source proche de l'enquête à des journalistes. Selon la même source, ces sommes proviennent de bonus perçus par M. Kattner en vertu d'un contrat dont les termes étaient gardés secrets au sein de la FIFA. Je vous rappelle que la Sénégalaise Fatma Samoura, nouvelle secrétaire générale de la FIFA, doit en principe prendre ses fonctions mi-juin.
En football, l'Espagne, double championne d'Europe en titre, a entamé sa préparation pour l'Euro 2016.
Un premier rassemblement n'incluant que 8 des 25 joueurs appelés par le sélectionneur Vicente del Bosque, les autres ayant été retenus par les échéances de fin de saison en club. Parmi les footballeurs convoqués hier au centre d'entraînement de la Fédération espagnole dans la banlieue de Madrid, on retrouvait notamment les trois joueurs de Chelsea, Cesc Fabregas, Pedro et César Azpilicueta, deux de l'Atlético Bilbao, un joueur de Manchester City, un de Villarreal et l'un du Celta Vigo.
Tennis, tournoi de Roland-Garros.
Le Suisse Stan Wawrinka, tenant du titre, a souffert pour passer le premier tour de Roland-Garros en 5-7 hier, aux dépens du Tchèque Lucas Rosol. 4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4, c'est le score en 3h11 de jeu. Jamais le vainqueur sortant n'a été éliminé d'entrée à Roland-Garros. Et puis c'est la saison des playoffs. Idrissa, la NBA, le championnat de basket nord-américain, on parle de la finale de la conférence Est.
Les Toronto Raptors sont revenus à hauteur des Cleveland Cavaliers dans la finale de la conférence Est des playoffs NBA grâce à leur deuxième victoire consécutive à domicile 105 à 99 hier soir. Les deux équipes sont à égalité, deux victoires partout dans cette série qui se dispute au meilleur des sept matchs. Le pivot congolais de Toronto, Bismack Biyombo, a été une nouvelle fois déterminant en défense et dans la raquette, 14 rebonds, 3 contre. Le vainqueur de cette finale de conférence Est entre Cleveland et Toronto sera opposé soit à Golden State, soit à Oklahoma City. Le champion NBA en titre est mené par Oklahoma City, 2-1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À Arusha, en Tanzanie, les consultations sur la crise au Burundi, débutées samedi, se terminent aujourd'hui. La plateforme de l'opposition politique au Burundi, mais en exil, qui a boycotté ses consultations pour préparer les véritables négociations, exige une invitation individuelle pour prendre part à ces assises. L'opposition aurait-elle donc choisi la politique de la chaise vide ? Eric Manirakiza a joint à Kigali, au Rwanda, le vice-président du Sénarède de Geriteka, Onesime Nduimana.
Nous n'avons pas choisi la politique de la chaise vide parce que nous n'avons pas été invités, et pas du tout. Alors, dire aussi que nous avons été invités individuellement, ça aussi c'est faux, parce que on a l'impression que Bujumbura a essayé de faire des contacts avec certaines personnalités ou certaines personnes qui proviennent des partis membres du Sénarède, essayer de les convaincre pour, en fait, les mettre dans la logique de leur politique de dialogue intérieur qui en fait, ils se cherchaient apparemment des alliés. Mais nous ne pouvons pas dire que le Sénarède a été invité, ni comme une entité, ni comme la plateforme, et encore moins, ni comme les membres composant le Sénarède. La vérité est plutôt celle-là.
Quel est le sens que vous donnez à ces consultations qui ont commencé samedi à Arusha?
L'intention était bonne, mais le problème c'est que ça a été récupéré par le gouvernement de Bujumbura à travers son ambassadeur à Libéran Fumuke auprès de la communauté est-africaine. D'ailleurs, avoir le décret qu'il a nommé comme ambassadeur le plénipotentiaire auprès de cette communauté, c'est comme si le gouvernement avait choisi sa destitution de son poste de secrétaire général pour s'occuper rien que des intérêts du seul gouvernement illégal et illégitime de Bujumbura. Donc cette récupération ne nous engage pas et nous pensons que peut-être le médiateur pourra récupérer la situation au profit des intérêts de la communauté est-africaine en général et des intérêts des Burundais en particulier.
Qu'est-ce que vous exigez pour prendre part à son genre d'assises?
Nous exigeons que le Sénarède soit invité comme tel, comme la plateforme de l'opposition burundaise. Et nous exigeons aussi que toutes les parties qui sont anti ce troisième mandat de malheur du président Nkurunziza soient invités à juste titre, et que ceux qui le soutiennent soient invités aussi comme une partie à part, et que les deux parties soient confrontées sous l'arbitrage de la médiation, afin que la vérité puisse éclater au grand jour et qu'on puisse finalement négocier une paix réelle et une remise du Burundi sur la voie du développement et de la démocratie intégrale pour que le Burundais et le Burundi puissent retrouver sa voie au niveau de la communauté des nations.
C'était Onesime Nduimana, joint à Kigali, au Rwanda.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Grève générale d'une semaine du public et du privé au Gabon à l'appel de la Confédération syndicale dynamique unitaire. Un piquet de grève est organisé devant la primature à Libreville et les gouvernorats et préfectures en province. Les revendications des grévistes sont essentiellement d'ordre salarial. Nathalie Barge a demandé au président de Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama, si la grève avait été bien suivie hier.
La loi est claire. Elle oblige les syndicats à déposer un préavis de grève de 8 jours francs avant d'entrer en grève. La loi oblige aussi le gouvernement à recevoir les syndicats qui déposent le préavis de grève afin d'éviter la grève. Donc le gouvernement n'a pas répondu à notre préavis de grève. Le gouvernement l'a négligé, il a méprisé notre préavis de grève. Et donc la conséquence, c'était donc l'entrée en grève qui est observée depuis ce matin. Donc il n'y a aucune négociation, aucune discussion à ce jour avec le gouvernement.
Alors quelle issue envisagez-vous à tout cela? Parce que les grèves, ça remonte à plus loin encore, 2012, etc. 2015, on a quasiment une année blanche pour les établissements scolaires. Comment voyez-vous l'issue de ce conflit?
Vous avez tout à fait raison, madame. C'est des grèves à répétition, c'est pas la première fois, c'est du déjà vu, et tout le temps c'est la même chose. Eh bien, nous avons au moins la chance que maintenant se pointent à l'horizon les élections présidentielles. Je pense que les travailleurs en tireront les conséquences des balbutiements du gouvernement, du mépris que le gouvernement a vis-à-vis d'eux, surtout vis-à-vis de leurs revendications. Nous pensons que les travailleurs, très prochainement, aborderont le sujet qui intéresse tout le monde en ce moment, ce sont les élections présidentielles. Et je pense que très rapidement, nous mettrons les pieds dans le plat et peut-être qu'on se fera mieux entendre.
Comment faites-vous pour tenir le coup? Parce qu'avec toutes ces grèves, alors déjà vous avez des problèmes de salaire, n'est-ce pas? Et on a du mal à s'imaginer finalement que le gouvernement va vous payer vos salaires lorsque vous faites la grève, n'est-ce pas?
Tout à fait. On n'est pas dupes. Hein. Comment on tient? Eh bien, c'est par la grâce de Dieu que nous tenons, parce que ce que le gouvernement veut, c'est nous avoir à l'usure, parce qu'on revient tout le temps sur les mêmes choses. Il y a certains qui tombent, que le gouvernement achète. Il y a des syndicats que le gouvernement arrive à mettre dans sa calebasse. Bon, il y a d'autres qui résistent comme nous, et nous résisterons. Il y a des mouvements qui sont prévus, il y a des rassemblements qui sont prévus, il y a des actions que nous allons poser au fur et à mesure que nous avancerons. Nous, travailleurs, nous ne pouvons obtenir des choses que par la lutte. Le passé nous le montre. Toutes les avancées sociales obtenues au Gabon ne l'ont été qu'à travers des grèves. Malheureusement, le gouvernement n'a jamais pris une mesure sociale hors pression.
Le professeur Jean-Rémy Yama, président de Dynamique Unitaire au Gabon, pour consulter notre article et l'interview dans son intégralité, eh bien, allez sur voaafrique.com.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Flambée exceptionnelle de paludisme dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Pour la seule nuit du 9 mai, 141 enfants ont dû être hospitalisés à l'hôpital général de référence de Paoua dans le Haut-Uele. Interpellé par les autorités sanitaires débordées par l'épidémie, Médecins sans frontières a lancé une intervention d'urgence. L'ONG a notamment distribué près de 10 000 traitements contre le paludisme, ainsi que des tests rapides dans 32 centres de santé pour que les malades soient pris en charge plus rapidement. Claire Morin-Gibourg, adjoint le responsable adjoint des urgences pour MSF, Florent Ouzeni.
Cette année, dans les zones de Paoua et de Bomamangbetu, il y a 7 fois plus de cas que la moyenne des 5 dernières autres années. Donc 7 fois plus de cas, que ce soit des cas simples de paludisme, mais qui très vite, par faute de médicaments, se compliquent et vont dans les hôpitaux. Sur l'hôpital de Paoua, 22 lits de pédiatrie, 130 enfants hospitalisés. Donc vous voyez l'ampleur de cette flambée.
Qu'est-ce que MSF a mis en place pour lutter contre ces cas de palu?
Alors, très rapidement, MSF est intervenu en support aux structures de santé périphériques, aux centres de santé, en mettant à disposition des traitements, des tests et un système de référence pour pouvoir transférer les enfants les plus gravement atteints dans les hôpitaux. Dans ces hôpitaux, nous supportons les services de pédiatrie, donc avec des soins intensifs où il y a de l'oxygène et des transfusions. Et puis les services d'hospitalisation qui sont dédiés aux cas les plus sévères.
Est-ce que la situation est aujourd'hui sous contrôle ou peut-être même jugulée ou au contraire vous êtes très inquiet?
Alors non, nous sommes extrêmement inquiets. C'est vrai que cette flambée a commencé il y a quelques semaines, donc on est encore au début, mais il y a de très nombreux cas, l'ampleur est encore à définir et cette intervention pour nous est dans sa phase d'expansion. Donc pour l'instant, nous sommes très inquiets pour la suite, bien sûr.
Est-ce que les autorités répondent bien à cette épidémie ou est-ce que vous trouvez qu'elles devraient faire plus et mieux ?
Alors, c'est les autorités sanitaires qui nous ont contactés hein, pour nous demander de l'aide. C'est vrai que devant l'ampleur de cette flambée, je pense que les autorités n'avaient pas la capacité de répondre fortement. Donc, un comité de crise a été mis en place. On travaille avec eux, on renforce le système. Mais il y avait vraiment besoin d'une aide extérieure, comme une organisation comme la nôtre, qui peut très rapidement envoyer sur place des médicaments, des médecins et du personnel.
Est-ce que vous craignez que cette épidémie se propage à d'autres pays ?
On ne peut pas l'exclure aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les données qu'on a, cette épidémie est plutôt localisée dans quelques zones de santé du Haut-Ouélé, dans une zone de santé du Bas-Ouélé qui est la zone de Dinguila, et probablement dans quelques zones d'Ituri. Donc pour l'instant, ça reste sur ces zones du Congo et on n'a pas d'alerte dans les pays voisins, que ce soit la République centrafricaine ou le Sud-Soudan.
Florent Ouzeni, responsable adjoint des urgences pour l'ONG Médecins sans frontières.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Les hauts représentants des deux plus importantes religions du monde, le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, cher Ahmed Al-Tayeb, se sont rencontrés hier au Vatican pour une réunion qualifiée d'historique. Les deux parties ont convenu de convoquer une conférence de paix, selon un communiqué d'Al-Azhar. Au micro de Jacques Aristide, le père Janvier Marie-Gustave Yameogo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone au secrétariat pour la communication du Vatican, explique la signification de cette nouvelle rencontre dans le cadre du dialogue entre l'Église catholique et l'islam.
Ça a été une rencontre très cordiale et le Saint-Père et le grand imam d'Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam sunnite justement, ont souligné ensemble la grande signification de cette nouvelle rencontre dans le cadre du dialogue entre l'Église catholique et l'islam.
D'après le Vatican, ils se sont entretenus principalement de la paix dans le monde, du refus de la violence et du terrorisme, de la situation des chrétiens dans le contexte des conflits et des tensions au Moyen-Orient, ainsi que de leur protection. Est-ce que ce sont des sujets importants d'après vous ?
Oui, ce sont des sujets d'ailleurs les plus importants qui font l'actualité. J'allais dire qu'on ne pouvait pas souhaiter dans ce temps actuel-là mieux qu'une rencontre qui réaffirme cet engagement commun pour les grandes religions en faveur de la paix dans le monde. Et le pape François ne fait que le répéter, le refus de la violence et du terrorisme. Et surtout, justement, la situation des chrétiens dans le contexte des conflits et des tensions du moins dans le Moyen-Orient. Je voudrais rappeler ici que quelques jours après sa messe de début de pontificat, le vendredi 22 mars, 2013, il a dit, je cite, « Il est important d'intensifier le dialogue entre les différentes religions. Je pense surtout au dialogue avec l'islam. Et j'ai beaucoup apprécié la présence durant la messe du début de mon ministère de nombreuses autorités civiles et religieuses du monde islamique. Et il est important d'intensifier la rencontre avec les non-croyants également. »
Et ce tête-à-tête marque-t-il également une étape cruciale après 10 ans de relations tendues entre leurs deux institutions en raison de propos controversés de Benoît XVI en Allemagne en 2006 ?
Dans mon pays, il y a un proverbe qui dit que on ne revient pas sur les anciennes querelles. Donc, effectivement, il faut prendre acte des difficultés qu'il y a eu auparavant et se réjouir aujourd'hui de ce pas, de cette rencontre, et justement qui augure de plusieurs possibilités de collaboration, de coopération au niveau de ce dialogue interreligieux. Et d'ailleurs, après la rencontre avec le Saint-Père, Ahmed Al-Tayeb s'est également entretenu avec le cardinal Jean-Louis Thorin, qui est le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Donc, c'est une bonne augure et nous espérons que ces relations vont continuer pour le bien de toute l'humanité, pour la paix.
Le père Janvier Marie-Gustave Yameogo, joint à Rome, en Italie. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Michel Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.